Marie-Christine Lanier, art et affinité. Tota pulchra es, amica mea, et macula non est in te. Tu es toute belle, ma bien-aimée, et il n'y a nulle tache en toi. Tes lèvres, tel un rayon de miel, distillent la douceur. Sous ta langue, le lait et le miel. Tes parfums et leurs effluves ne sont à nul autre arôme pareil. À présent, l'hiver est passé. La pluie a cessé et s'est éloignée. Les fleurs apparaissent. Les vignes en fleurs dégagent leur senteur. Et la voix de la tourterelle se fait entendre sur notre terre. Lève-toi, ma bien-aimée. Hâte-toi. Viens du Liban, ô fiancée, viens, et tu seras couronnée. Surge propera, amica mea, veni de Libano, corona beris. Heinrich Isaac, tota pulchra es, amica mea. À la fin du XVe siècle, le compositeur franco-flamand Heinrich Isaac mit en musique un motet à quatre voix. Un motet anonyme d'après le Cantique des Cantiques. Dans la Bible, le Cantique des Cantiques, c'est une collection de poèmes érotiques où un bien-aimé et une bien-aimée, une femme et un homme, célèbrent la beauté du corps de l'autre, le désir et l'amour charnel. Motet interprété par les Talis Scholars, sous la direction de Peter Phillips. Bonjour. Le Cantique des Cantiques se trouve en plein cœur des livres sapientiaux ou livres des sagesses dans la Bible. Ce chant d'amour fut attribué au roi Salomon pour faciliter son intégration dans le canon des livres bibliques. Et on a tenté d'atténuer le caractère érotique du Cantique des Cantiques en faisant une lecture allégorique dans le judaïsme, ce poème fut interprété comme l'amour de Yahvé pour son peuple est intégré dans la liturgie pascale. Les recherches les plus récentes, celles de Thomas Römer, notamment professeur au Collège de France, datent cet hymne à l'amour et à l'érotisme du IVe siècle avant Jésus-Christ et montre que le Cantique des Cantiques s'inspire des poèmes du Proche-Orient ancien qui décrivent les aventures de la déesse Ishtar, déesse de l'amour et de la sexualité en Mésopotamie. Donc, si l'on revient au texte même, le Cantique des Cantiques n'est pas un livre pieux. Il pourrait même s'agir d'une sorte d'opéra, car il y est fait référence à un chœur de jeunes filles. Le scénario se passe dans un contexte pastoral, à la campagne. Un homme et une femme cherchent à se retrouver et à vivre une relation amoureuse et sexuelle. Viens, mon bien-aimé, allons au jardin, là je te donnerai mes caresses en 7, 12, 14, répond la fiancée en un dialogue absolument passionné avec le bien-aimé. Le cantique fait clairement référence à la sensualité et à une relation d'amour physique, et ce, dès ses premières lignes, je cite, qu'il me baise des baisers de sa bouche, car tes baisers sont meilleurs que le vin. En 1, 2. Alors, le message du cantique, l'amour et la sexualité sont un don fait à l'homme par Yahvé pour donner un sens à la vie malgré une mort inéluctable. C'était très choquant pour l'exégèse chrétienne. Alors, on proposa une interprétation allégorique. Qui est la fiancée, la bien-aimée ou l'épouse au Moyen Âge et à la Renaissance? Qui est le bien-aimé? Et quel est ce jardin secret? L'exégèse chrétienne identifie au sens allégorique la fiancée avec l'Église aimée par le Christ, ou bien, seconde interprétation, Marie, la mère de Dieu, aimée de son Fils. Et la fermeture du jardin est devenue le signe de sa virginité, de la parfaite pureté qu'elle conserve pour concevoir et attendre la naissance de son Fils. Et voici la phrase qui sera décisive pour les méditations mystiques médiévales. C'est une phrase très célèbre. Tu es un jardin clos, ma sœur, mon épouse, un jardin secret, une fontaine scellée. En 4:12, c'est le cri d'admiration du chant d'amour du fiancé. Transposons en langage chrétien, Marie est comme un jardin secret réservé, inviolé, et Dieu a mis le nouvel Adam, c'est-à-dire le Christ, dans ce jardin, dans le corps de Marie, comme il avait mis le premier Adam dans le premier jardin de paradis, l'Éden. Et d'ailleurs, vous le savez, c'est en jardinier que le Christ ressuscité apparaîtra à Marie-Madeleine. Et c'est vers un jardin de roses où se tient une Vierge à l'enfant qui est une œuvre célébrissime, une œuvre insigne du patrimoine français, un chef-d'œuvre de l'art de la Renaissance que je vous emmène dans le cadre de l'exposition du Louvre intitulée « Martin Schongauer, le bel immortel » jusqu'au 20 juillet 2026. Aujourd'hui, second volet d'un cycle de deux émissions sur le peintre-graveur allemand Martin Schongauer, né à Colmar vers 1445 et mort en 1491. Toujours en compagnie du compositeur Heinrich Isaac, né vers 1450, probablement dans les Pays-Bas méridionaux, et mort en 1517 à Florence, après avoir été au service de Laurent de Médicis, Laurent le Magnifique, à Florence, puis au service de Maximilien Ier, empereur d'Allemagne. Alors, je remercie Jean-Édouard pour le montage des images qu'il vous montre en ce moment sur le site de rc.fr et je remercie vivement le musicien Stéphane qui réalise cette émission. Le chant d'un rouge-gorge pour annoncer la star de l'exposition du Louvre, la Vierge au buisson de rose, huile sur bois conservée dans l'église des Dominicains de Colmar. C'est un grand retable de 2 mètres de haut. C'est une reconstruction. Il était beaucoup plus grand. Il fut découpé certainement au XVIIIe siècle sur ses 4 côtés. Et je vous montre une copie peinte au début du XVIe siècle, une copie conservée à Boston qui permet de voir la composition d'origine. Alors, il n'y a pas de document d'archives concernant ce retable. A-t-il été conçu dès l'origine pour la collégiale Saint-Martin, qui est l'église principale de Colmar? On ne le sait pas. Selon les chercheurs, la première mention de l'œuvre dans la collégiale Saint-Martin remonte seulement au XVIIIe siècle. On ne sait pas qui est à l'origine de la commande. Ce retable sera inséré dans une structure néo-gothique au début du XXe siècle. Une structure sculptée, encadrée de volets peints. Au Louvre, vous verrez la Vierge au buisson de rose dans des conditions tout à fait exceptionnelles. Elle est décadrée, presque à hauteur d'yeux. Débarrassée de cette structure néo-gothique et de ses 2 volets peints. C'est la seule œuvre datée de Schongauer. Au revers est écrit 1473. Sur les planches de résineux qui sont assemblées pour former le panneau. Alors, ce qui frappe quand vous êtes devant, c'est très physique, c'est l'immense manteau rouge de la Vierge sur fond d'or, le treillis de fleurs rouges derrière elle. Et puis on aperçoit 2 anges bleus qui la couronnent, donc rouge, jaune, or et bleu. La Vierge occupe pratiquement toute la composition du monumental panneau. Elle est assise sur un banc d'herbe et elle tient dans ses bras l'enfant qui enroule le sien autour du cou de sa mère. Attention! La fiancée du cantique des cantiques chante. Son bras gauche est sous ma tête et sa droite m'étreint. Elle parle d'un fiancé. Ici, c'est le fils et sa mère. Marie, son visage est d'une rare pâleur, encadré de longs cheveux blonds tombant en boucles ondulées sur les épaules. Et le visage est surmonté d'une couronne de perles et de pierreries tenue par 2 anges. L'extrême virtuosité du traitement de cette pièce d'orfèvrerie rappelle la technicité de ce fils d'orfèvre, petit-fils d'orfèvre également, qu'est Martin Schongauer. Et puis, On découvre la variété des fleurs qui entourent la Vierge. Des roses rouges, des pivoines, giroflées et la présence d'oiseaux. J'en ai compté 8, dont le rouge-gorge, le chardonneret, des mésanges, nichés dans le treillis devant lequel se tient la Vierge. Depuis le début du XVe siècle, la figuration de la Vierge dans un jardin clos connaissait un grand succès auprès des artistes du Rhin supérieur. Je vous montre sur l'écran de rc.fr d'un peintre de l'école de Cologne, Stéphane Lochner, une Vierge aux palis de rose, conservée à Cologne et datée des environs de 1450. Alors, suivez-moi bien. Deux thèmes fusionnent dans le retable de Schongauer. D'abord celui de Marie associée au jardin clos, représenté ici de façon métaphorique par la treille derrière elle et un parterre de fraisiers. Et puis deuxièmement, le thème du jardin de paradis évoqué par le fond d'or, un fond d'or qui donne au jardin son caractère sacré. Donc, autour du personnage de Marie se fait le parallèle dont je vous parlais entre le jardin clos en latin, l'hortus conclusus du Cantique des Cantiques bibliques. Elle est un jardin bien clos, ma sœur aux fiancées, un jardin bien clos, chantait le bien-aimé, et le jardin de paradis. Car Marie est ici devenue la fiancée du Cantique des Cantiques, le jardin clos est le signe de sa pureté, mais Marie est aussi associée au jardin de paradis, car selon les pères de l'Église, elle est cette nouvelle Ève dont je vous parlais, qui engendre le Christ, nouvel Adam, le Christ qui va racheter la faute commise dans le premier jardin d'Éden. Par ailleurs, la Vierge assise sur un simple banc de gazon est ce que l'on appelle en histoire de l'art une Vierge d'humilité, puisqu'elle n'est pas sur un trône. Alors, les Vierges d'humilité italiennes sont-elles carrément assises par terre, à même le sol ou sur un coussin posé par terre? Mais, dans ce retable, Marie figure aussi comme reine des cieux, ou plutôt future reine des cieux, puisque deux anges s'apprêtent à la couronner. C'est du déjà, mais pas encore. Déjà, mais pas encore. Donc on a une superposition d'interprétation. Allons plus loin. Il faut tenir compte également des couleurs, la robe et le manteau rouge de la Vierge. Et cette nature qui est totalement naturaliste, identifiable avec ses pivoines, ses roses, les fraises par terre, encore la couleur rouge, et puis les oiseaux qui animent la treille, ce sont, à cause de cette couleur rouge, autant de symboles de la mort du Christ, donc du drame de la passion à venir. C'est pour ça qu'elle est en rouge. Habituellement, la Vierge est en bleu. La Vierge apparaît comme une rose au milieu des roses, certes, mais les roses rouges sont annonciatrices de la passion du Christ. Et dans cette nature florissante se dissimulent des symboles chrétiens. Je prends un seul exemple, la présence du chardonneret, qui renvoie à la passion du Christ. Le plumage rouge de sa tête est une allusion au sang versé sur la croix, et son nom, chardonneret, vient de cardus, en latin, le chardon évoquant la couronne d'épines, etc. Autre point, enfin, sur un plan plastique, on retrouve le grand souci du détail de Martin Schongauer. Le rouge-gorge observe le pinson, en contrebas, tandis que celui-ci chante le bec à demi ouvert. Un moineau ouvre le bec et l'asoir sa langue et peut-être une brindille. Enfin, j'observe que la Vierge et l'enfant portent leur regard dans des directions différentes. Selon les chercheurs, celui de la mère tournée vers le bas exprime de la mélancolie qui serait liée au sort tragique de son fils, un sort qu'elle connaît. Et l'enfant, lui, regarde au loin comme s'il entrevoyait déjà son destin. Peut-être beaucoup plus simplement, y avait-il à l'origine deux volets avec un donateur de chaque côté et la Vierge et l'enfant regardaient ces donateurs. Mais la tendresse qui unit les deux personnages est sensible dans le geste de l'enfant qui a glissé ses doigts dans les mèches de cheveux de sa mère. Et c'est là que s'est opérée la transposition du poème érotique, le Cantique des Cantiques, à une image chrétienne. Alors ce qui reste en mémoire, c'est peut-être le visage si pâle de la Vierge, son regard rêveur qui se détourne, révèle une étrange mélancolie sur fond de feuilles d'or et d'éclaboussures de rouge. Donc un admirable chef-d'œuvre peint en résonance avec le plus poétique, le plus érotique des textes bibliques. Sur l'auréole de la Vierge, enfin, est écrit « Cueille-moi comme ton enfant, ô très sainte Vierge ». Alors, « Cueille-moi », c'est une prière, une supplique qu'on adresse à la Vierge en voulant s'associer à ses douleurs. Donc, ce serait un panneau de dévotion si ce qui est inscrit sur l'auréole est d'origine. Et il faudrait replacer ce panneau dans le contexte de la mystique rhénane qui s'est développée à partir du XIVe siècle en Alsace et dans la vallée du Rhin, c'est-à-dire un courant où les fidèles se rapprochent au plus près de Dieu. Il faudrait parler de Maître Eckhart, mais ce n'est pas le lieu et je n'en serais pas capable. La présence des oiseaux donne une idée presque de sonorité, de musicalité à l'œuvre, et nous retournons vers Heinrich Isaac. Et l'approche de la messe polyphonique est Si voix Virgo Prudentissima, interprétée par l'ensemble Gilles Binchois, dirigé par Dominique Vella. Alors, Virgo Prudentissima fut probablement composé vers 1507, alors que Maximilien Ier projetait son couronnement comme empereur du Saint-Empire romain germanique. Depuis le XIVe siècle, ce qu'on appelle une messe en musique, c'est l'ordinaire de la messe, c'est-à-dire, soyons très clairs, les textes chantés à toutes les occasions, qu'on soit à Noël, Pâques, à une messe d'enterrement ou pour le salut d'une âme. Ces textes, vous les connaissez, ce sont le Kyrie, le Gloria, le Credo, le Sanctus, l'Agnus Dei, la messe polyphonique, initiée au XIVe siècle, avec un Guillaume de Machaut, par exemple, né à Avignon, quand les papes étaient à Avignon. La messe polyphonique comporte donc 5 mouvements. Et il fallait vraiment des chanteurs expérimentés, professionnels, un par voix au début. C'est ce que j'appelle de la polyphonie de soliste. Nous sommes avec Heinrich Isaac à la toute fin du XVe siècle. Et à cette époque, les compositeurs recherchent, me semble-t-il, une unité musicale, un lien musical entre les 5 mouvements, c'est-à-dire une mélodie qui circule d'un mouvement à l'autre et que l'on reconnaît. Dans sa Missa Virgo Prudentissima, Heinrich Isaac choisit comme mélodie de référence une antienne mariale, l'antienne du Magnificat de la fête de l'Assomption. Alors voici à nouveau le texte de l'antienne grégorienne que je vous ai lue il y a 15 jours. Virgo prudentissima, Vierge très sage, quo progrederis? Vers où chemines-tu? Pareil à l'aurore resplendissante, fille de Sion, tu es toute belle et charmante, admirable comme la lune, incomparable comme le soleil, pulcra ut luna, electa ut sol. Alors écoutons maintenant cette antienne grégorienne qui date du Moyen-Âge. Ce sera une monodie de 55 secondes. Vous l'avez dans l'oreille? Alors écoutons tout de suite le début du Kyrie. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié. La mélodie de référence sera reconnaissable à partir de la 16e seconde. Et le texte de l'antienne sera chanté à nouveau par la voix supérieure, le Superius.
Vous avez fait le choix de nous rester fidèles. Vous avez fait le choix d'écouter Radio Courtoisie. Vous avez fait le choix de nous soutenir parce que vous êtes libre. Parce que pour vous, tout comme Radio Courtoisie, la liberté de penser, la liberté de parler, la liberté de chercher sont primordiales pour vous. Radio Courtoisie vous offre désormais le choix d'écouter nos podcasts partout et tout le temps sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. Gratuitement, pour que toujours cette liberté qui nous unit, qui nous est chère, demeure.
La révolution qu'opère Schongauer dans l'iconographie et la technique du burin aura des répercussions auprès des artistes dès son vivant. Et c'est ce que présente la seconde partie de l'exposition du Louvre. Il s'agit donc de la réception artistique. Les gravures sont des multiples et la diffusion se fait par leur biais, la diffusion des motifs iconographiques. Une des estampes les plus spectaculaires de Schongauer raconte comment Saint-Antoine fut transporté dans les airs et attaqué par des démons de toutes sortes. Alors, Antoine, c'est le père du monachisme. Il vécut au IVe siècle, menant une vie d'ascète dans le désert d'Égypte. Martin Schongauer est un artiste érudit, il s'inspire véritablement ici de la biographie rédigée par Athanase d'Alexandrie après la mort d'Antoine et de la célèbre légende dorée de Jacques de Voragine du XIIIe siècle. Alors, Schongauer innove, il innove en situant la scène dans les airs et non dans une grotte. C'est très virtuel. Le personnage flotte entre un ciel qui est rendu par de simples traits horizontaux, ça c'est vraiment très très novateur, et un petit rocher pouvant évoquer le désert de l'ermite. Donc j'ai un décor très minimaliste. Entre les deux, le saint est vu de face et entouré d'une ronde endiablée. 9 créatures ailées, griffues et poilues, j'insiste, griffues, très griffues et poilues, toutes plus effrayantes les unes que les autres l'attaquent. Alors, ce sont des démons hybrides, tout à la fois hommes, oiseaux, chauves-souris, insectes ou batraciens. Donc, ils tournoient autour de la figure centrale qui, elle, demeure totalement, mais totalement impassible. Son corps ne porte aucune blessure, bien qu'il soit attaqué à coups de griffes et de gourdins, les démons le tirent par les manches, par les cheveux. Que représente cette horde de 9 monstres? Il faut d'abord tenir compte de ce que, en ce 15e siècle, on croyait au diable et aux enfers. C'est drôle, n'est-ce pas? On n'en parle plus du tout aujourd'hui. Il peut s'agir des tentations du diable ou du mal, contre lesquelles lutte Antoine. Il représenterait alors un modèle de résistance au diable, au péché. Autre interprétation possible. Ces tourments, seraient en fait des hallucinations causées par trop de jeûne, de solitude, de veille, une vie d'ascète dans le désert causant l'apparition de démons imaginaires. Et c'est ce que l'on appelait l'acédie. A-C-E-D-I-E. Alors l'acédie, c'est le mal des moines, une sorte de mélancolie fatale, on parlait de la bile noire. Et c'est Flaubert, dans la tentation de Saint-Antoine de 1874, qui la met excellemment en scène. « Que je m'ennuie !» s'écrie l'anachorète. « Je voudrais aller quelque part, je ne sais où. Je ne sais pas ce que je veux. Je n'ai même pas la volonté de désirer vouloir. Dire pourtant que j'ai passé toute ma vie ainsi et que jamais Jamais je n'ai vu seulement danser la Pyrrhique. C'est pitoyable. D'où diable cette idée me vient-elle? Alors, vous l'aurez compris, elle vient du diable, évidemment, c'est-à-dire d'une imagination exacerbée par l'ascétisme. Au fond, je n'aime pas Dieu. Je répète. Au fond, je n'aime pas Dieu, conclut Antoine, qui ajoute « Je m'en vais me rouler par terre et crier tout haut en me déchirant la figure avec les ongles. Je veux mordre. » Flaubert avait précisément décrit les symptômes de l'ascédie et même ceux qui seront gravés par un certain Lucas Cranach après Schöngauer. Donc je vous montre une gravure sur bois, le Saint Antoine tourmenté par les démons de Lucas Cranach l'Ancien. Cranach s'appuie sur la gravure de Schöngauer. C'est très dramatique. Il a repris cette idée d'un Saint Antoine transporté dans les airs, attaqué par les démons, mais c'est beaucoup, beaucoup plus violent. Et Saint Antoine est manifestement en train de souffrir à cause de tous ces démons. Cranach met cet épisode dans un paysage, ce que ne fait absolument pas Schöngauer. Ah, ce qui me frappe, c'est la quasi-disparition du corps et du visage d'Antoine dans un chaos, mais indescriptible. Et on a l'impression, contrairement au Saint Antoine de Schöngauer, que celui de Cranach va succomber sous les attaques des créatures démoniaques. Alors, l'enjeu de telles images, commandées par les ordres monastiques, c'était d'avertir les moines de la dangerosité de telles divagations ou bien d'une trop grande solitude. Autre exemple de diffusion, la mort de la Vierge. Aucun des évangiles ne mentionne la mort de la Vierge. Selon la légende dorée du dominicain Jacques de Voragine, au XIIIe siècle, la Vierge, avertie de sa mort prochaine, exprime le souhait de voir rassembler autour d'elle les apôtres qui se trouvaient dispersés à travers le monde. Alors, dans le monde byzantin, là où ça commence, dans le monde byzantin, on parle de dormition de Marie. Ce furent les premières représentations de la mort de Marie. Le schéma byzantin représente Marie allongée sur un lit, on a là une horizontale, déjà morte, elle est déjà morte, les apôtres autour d'elle réunis pour une déploration. Et le Christ debout, à son chevet, venu chercher l'âme de sa mère, qui est représentée sous la forme d'une toute petite fille qu'il tient dans ses bras. Et donc j'ai une ligne verticale qui est celle de la figure du Christ. Donc dans les églises d'Orient, le Christ s'inscrivait au fond dans la lignée des grands dieux psychopompes, les anciens dieux psychopompes, c'est-à-dire ceux qui conduisent les âmes des morts. L'iconographie de la mort de la Vierge gagne l'Occident, mais à partir du XVe siècle, un changement s'opère, car la Vierge est représentée dorénavant, non pas morte, mais sur le point de mourir. Et le lit est disposé en oblique de façon à ce que la Vierge soit vue presque de face. Et surtout, le Christ n'est pas debout près du lit de sa mère. Dans la gravure de Schöngauer, que vous avez sur l'écran de rc.fr, on voit les apôtres qui sont réunis autour du lit. Ah, ce que j'observe, c'est qu'ils sont extrêmement attentif à ce qui se passe. Saint Jean tente un cierge allumé à la Vierge, un autre apôtre apporte l'eau bénite et au pied du lit, deux apôtres lisent des prières. C'est une scène une scène extrêmement vivante en cette fin du XVe siècle. Et le fait que Martin Schongauer soit issu d'un milieu d'orfèvre se remarque tout de suite à la présence du cierge au premier plan, qui est une pièce d'orfèvrerie extraordinaire. C'est un objet qui va frapper les esprits. Le décor est traité de façon réaliste. On a une chambre à coucher avec un grand lit à courtine, comme on en faisait à la fin du XVe siècle. C'est presque un art de bien mourir maintenant. Et ce qui frappe chez Schongauer, ce qui frappe quand on observe cette gravure attentivement, c'est l'émotion de certains protagonistes, un côté vibrant, très intense. Alors cette gravure aura une grande influence sur les artistes allemands, mais aussi en Italie. Je vous montre une majolique prêtée par le British Museum. Une majolique, c'est de la faïence italienne de la Renaissance, où l'on retrouve cette gravure, mais adaptée à la forme circulaire du plat. Et puis problème. J'aime beaucoup les problèmes. Problème. Je vous montre une huile sur panneau conservée à Bruges. Une mort de la Vierge de Hugo van der Goes, qui n'est pas présent à l'exposition. Hugo van der Goes est un très grand maître des anciens Pays-Bas, absolument contemporain de Martin Schongauer, actif à Gand. Donc deux thèses vont s'affronter, c'est ça qui est passionnant. Pour certains chercheurs, la gravure sur cuivre de Schongauer implique absolument la connaissance du tableau de Bruges que vous pouvez observer. Et puis pour d'autres, c'est la thèse inverse, qui veut qu'au contraire, la peinture du maître flamand se soit inspirée de la gravure de Schongauer. C'est une enquête policière qui n'a pas trouvé de conclusion, tout simplement parce qu'on ne connaît pas précisément la datation des œuvres. Il n'est pas exclu que les deux artistes s'inspirent d'un modèle commun antérieur. Enfin, le point qui rapproche tout le monde, c'est que les apôtres soient très individualisés. Retour à la Missa Virgo Prudentissima que j'aime énormément. Peut-être parce qu'elle est si bien chantée. Dans le Sanctus, vous allez reconnaître la mélodie de base de l'antienne grégorienne entendue tout à l'heure. Et puis à nouveau, vous allez retrouver cette mélodie, comme dit Stéphane, au Superius. Je traduis les voix supérieures. Bien. Alors, les premières mesures, les mesures initiales, introduisent toute la gamme des voix, mais deux par deux. Et puis, phrase après phrase, on oublie le texte. On est tenu en haleine par les sonorités des voix qui tissent ce chef-d'œuvre du contrepoint, par leur dynamisme parfois, dans le Sanctus. Et il y a même des moments où vous allez ressentir une sorte, comment dirais-je, une sorte d'insistance, presque de pulsion rythmique dans de la musique sacrée. Les princes de la Renaissance, je vous le rappelle, étaient en rivalité les uns avec les autres. Ils avaient les meilleurs des meilleurs chanteurs et compositeurs dans leur chapelle. Donc pour chanter ce que vous allez entendre, il faut des chanteurs exceptionnels. Qui était capable d'apprécier cette musique alors? Même pas les princes, seulement les chanoines. Donc écoutez-la bien, car vous êtes très privilégiés. L'exposition se termine sur une œuvre emblématique de Martin Schongauer, la plus grande exécutée au nord des Alpes au XVe siècle. C'est un épisode dramatique de la Passion du Christ, un portement de croix qui est représenté en dehors de tout cycle consacré à la Passion. Et au Louvre, il y a un espace où une vidéo détaille ce grand portement de croix, fragment par fragment, et après on peut revenir voir l'estampe. Alors on a une histoire, une narration qui se déroule depuis la sortie de Jérusalem, qui est esquissée à l'arrière-plan à droite, très finement, avec un cortège d'environ 50 personnages, c'est considérable, qui suivent le Christ, et ce cortège monte de façon inexorable vers le Golgotha à gauche. Donc une profusion de personnages, une profusion d'individus très caractérisés, très différenciés les uns des autres, et un travail au burin sur cuivre qui va d'un trait extrêmement fin, comme dans l'évocation de Jérusalem, jusqu'au plus profond de la plaque de cuivre dans le rendu des anfractuosités de rochers. Ce qui me frappe, c'est difficile à oublier, ce sont les sombres lignes parallèles qui dessinent des nuées noires au-dessus du Golgotha. Ce sont des lignes absolument parallèles les unes aux autres. Donc des nuages s'épaississent et je saisis que le drame à venir va se dérouler sur la gauche. Donc tout un jeu d'ombre et de lumière virtuose qui emmène votre regard, c'est toute la maestria de Schongauer. Alors, toutes ces personnes sont en train de parler, de hurler, sauf le Christ qui vous regarde. Il est tombé sous le poids de la croix et finit par attirer le regard du spectateur en plein centre du cortège. Et il est le seul à montrer son visage de face. Alors j'ai pensé aux icônes de la Sainte Face. Mais là aussi, il faudrait parler de la mystique rhénane, de ce que l'on a appelé l'imitation du Christ, imitation entre guillemets, demandée aux fidèles, c'est-à-dire une dévotion nouvelle qui était apparue dès le XIVe siècle en Europe du Nord, et ce visage tourné vers le spectateur l'appelle à imiter les souffrances du Christ. C'est une nouvelle dévotion qui n'est pas sans rapport avec la venue plus tard du protestantisme. Bien, donc une gravure impressionnante par sa taille et la puissance narrative. Donc en conclusion sur Schongauer, je dirais que dans le troisième tiers du XVe siècle, il est l'un des premiers à exploiter toute la richesse de cette technique de la gravure au burin, qui est née un siècle plus tôt, que ce soit sur le plan de l'iconographie ou bien sur un plan technique. Schongauer la hisse à un niveau jamais atteint jusqu'alors. D'autre part, ses compositions ont rencontré un succès immédiat. Elles circulent intensément, sont rapidement copiées, adaptées, réinterprétées, aussi bien dans le monde germanique qu'en Italie. On sait que les peintres florentins notamment sont formés à la technique du dessin par la pratique de la copie d'après les estampes de Schongauer. Mais vous verrez des exemples d'influence de ces gravures de Schongauer jusqu'à Cracovie et de nombreux exemples en Espagne. Schongauer était à la fois graveur, mais aussi peintre et dessinateur. Avoir la possibilité au Louvre d'être si près de la Vierge au buisson de rose, c'est un très grand privilège qui ne se répétera jamais. Donc, ne le manquez pas. Et pour clore en musique, avec Heinrich Isaac, je vous dirais qu'il a laissé près de 100 pièces profanes et instrumentales. Vous allez entendre une petite pièce, L'ami la sole, une étonnante petite pièce dans sa version instrumentale qui va vous rester toute la journée dans la tête. Alors vous allez beaucoup m'en vouloir, mais je me console en me disant qu'elle ne nous posera aucun problème de compréhension de texte. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Quand la soprano allemande Dorothy Miltz nous capte de sa voix cristalline et quand se joignent à elle les quatre flûtistes talentueuses et historiquement bien informées du Boreas Quartet Bremen, l'ami la sol, au revoir.
Vous venez d'entendre Art et Affinité, dirigé par Marie-Christine Lanier. Émission préenregistrée le 6 juin 2026 et diffusée sur Radio Courtoisie jeudi 11 juin, de 10h à 11h et réalisée par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.